avec toute la puissance et la terreur de Satan.
L'idée était acceptable. Il suffisait de considérer qui avait introduit les protocoles en Russie. Un des plus influents martinistes de la fin du siècle, Papousse, avait séduit Nicolas II pendant une de ses visites à Paris, puis il s'était rendu à Moscou et avait amené avec lui un certain Philippe, autrement dit Philippe Nisier Anselme Vachod. Possédé par le diable à 6 ans, guérisseur à 13, magnétiseur à Lyon, il avait fasciné et Nicolas II et son hystérique d'épouse. Philippe avait été invité à la cour, nommé médecin de l'Académie militaire de Saint-Pétersbourg, général et conseiller d'État. Ses adversaires décident alors de lui opposer une figure tout aussi charismatique qui en mina le prestige, et on trouve Nilous. Nilous était un moine pérégrin qui, dans ses robes de bure, pérégrinait, et qu'avait-il d'autre à faire, à travers les bois étalant une grande barbe de prophète, deux épouses, une fillette et une assistante ou maîtresse comme on voudra, toutes suspendues à ses lèvres. Moitié gourou de ceux qui finissent par filer avec la caisse et moitié ermite de ceux qui crient « la fin est proche », et en effet, son idée fixe, c'était les trames ourdies par l'Antéchrist. Le plan des partisans de Nilous était de le faire ordonner pope, de façon que, en épousant une femme de plus, une femme de moins, Hélène Alexandrovna Ozerova, demoiselle d'honneur de la tsarine, il devint le confesseur des souverains. « Je suis un homme doux, disait Belbeau, mais je commence à soupçonner que le massacre de la famille impériale a peut-être été une opération de dératisation. » En somme, à un moment donné, les partisans de Philippe avaient accusé Nilous de vie lascive, et Dieu sait s'ils n'avaient pas raison eux aussi. Nilous avait dû quitter la cour. Mais là, quelqu'un était venu à son aide en lui passant le texte des protocoles. Comme tout le monde faisait une énorme confusion entre martinistes, qui s'inspiraient de Saint-Martin, et martinésistes, fidèles de ce Martin de Pasquali qui plaisait si peu à Aglié, et comme Pasquali, selon la rumeur, était juif, en discréditant les juifs, on discréditait les martinistes, et en discréditant les martinistes, on liquidait Philippe. Effectivement, une première version incomplète des protocoles avait déjà paru en 1903, dans le Znamia, un journal de Saint-Pétersbourg dirigé par l'antisémite militant Khrouchtchevan. En 1905, avec la bénédiction de la censure gouvernementale, cette première version complète était reprise de façon anonyme dans un livre, La source de nos maux, probablement édité par un certain Moutmi, lequel avait participé avec Khrouchtchevan à la fondation de l'Union du peuple russe, connue par la suite sous le nom de Centuries Noires, qui enrôlait des criminels de droit commun pour accomplir des pogroms et des attentats d'extrême droite. Moutmi aurait continué à publier, cette fois sous son nom, d'autres éditions de l'ouvrage, avec pour titre « Les ennemis de la race humaine », protocole provenant des archives secrètes de la chancellerie centrale de Sion. Mais il s'agissait de petits livres à bon marché. La version in extenso des protocoles, celle qu'on traduirait dans le monde entier, sort en 1905. Dans la troisième édition du livre de Nilous, « Le grand dans le petit », l'antéchrist est une possibilité politique imminente, Tsarkoï Selo sous l'égide d'une section locale de la Croix-Rouge. Le cadre était celui d'une plus vaste réflexion mystique et le livre finit entre les mains du tsar. Le métropolite de Moscou en prescrit la lecture dans toutes les églises moscovites. Mais quelle est, avais-je demandé, la connexion des protocoles avec notre plan? On parle sans arrêt de ces protocoles ici, et si on les lisait? Rien de plus simple, nous avait dit Diotta Levi. Il y a toujours un éditeur qui les republie. Mieux, autrefois, ils le faisaient en montrant de l'indignation par devoir de documentation, puis peu à peu, ils ont recommencé à le faire avec satisfaction.
Comme ils sont gentils.